Nous lisons dans l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 13. Chapitre 13, évangile de Matthieu. Chapitre 13, verset 53. Jusqu'au verset 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Nous lisons Matthieu 11, et là ça va être long. Or Jean, dans sa prison, à partir du verset 2, or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Le même mot revient encore. Une occasion de chute. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, une occasion de chute. Et nous continuons. Verset 7. Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement. Donc là, il parlait de Jean-Baptiste. Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami de collecteurs d'impôts et de pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Et ça, ce n'est pas la caractéristique des humains. Les humains veulent être forts, puissants. Ils veulent être des grands. Mais Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Il y a une prophétie qui a été donnée sur Jésus dans l'Ancien Testament. Qu'il sera une pierre qui va être une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Ceux qui vont s'asseoir sur la pierre seront élevés. Mais ceux qui résisteront, la pierre fera tomber ces gens-là. Jésus est le sauveur de l'humanité. Mais il peut devenir une occasion de chute. C'est-à-dire un instrument de Dieu pour abattre quelqu'un. Pour révéler qui est une personne. Pour mettre quelqu'un par terre. Vous savez, un médicament, c'est pour arranger le corps, c'est pour soigner. Mais lorsqu'il est mal utilisé, il peut détruire. Il y a quelques jours, j'écoutais à la radio un médecin qui expliquait qu'à une certaine dose, l'aspirine tue. Pourtant, la même molécule, l'aspirine, lorsqu'on l'utilise, pourtant la même molécule d'aspirine sert à guérir et à prévenir beaucoup de maladies. Mais lorsqu'elle est prise, cette molécule, à une dose très élevée, elle tue. Jésus veut être le sauveur de tout le monde. Mais lorsque on le prend mal, il devient l'occasion de chute. C'est-à-dire, il va te freiner. Tu seras bloqué. Tu seras dans les embêtements, tu vas souffrir à cause de lui, alors qu'il était venu juste pour être ton sauveur, ton aide, ton soutien, ton chemin. Et on a lu un premier passage qui dit quoi? Qui dit que Jésus-Christ, arrivé dans sa patrie où il avait grandi, lorsqu'il prêchait, les gens étaient étonnés de ce qu'il enseignait avec une grande sagesse et une grande connaissance. Bien-aimés, entendez bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Au verset 2 du chapitre 13, « De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui et il monta... » Non, non, c'est plutôt au verset 53. 54, il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. La sagesse était-elle divine? Oui, parce qu'ils sont étonnés de la justesse des paroles de Jésus. Ils sont étonnés de leur profondeur. Donc, c'était clair que ça venait du ciel, que c'était les paroles de Dieu. Du moins, c'était les paroles de Dieu. Maintenant, à discuter si Jésus venait du ciel ou pas, mais les paroles que Jésus sortait étaient celles du Seigneur. Et il a fait des miracles extraordinaires. Mais qu'est-ce qui a bloqué ces gens? C'est que Jésus est né dans le coin. C'était un enfant, était né dans le coin, c'était un enfant du coin. C'est pourquoi Jésus dit, un prophète ne peut pas être accepté dans sa patrie. Parce qu'on se dit, mais on connaît ses sœurs, on connaît ses frères. Et il est écrit, Jésus, donc, dans ce cas-là, est devenu une occasion de chute. Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Au lieu qu'il soit un moyen de salut, il est devenu un moyen de blocage. Donc, ils étaient bloqués parce que ils regardaient à l'humanité de Jésus. Mais c'est un homme comme nous tous. Pourquoi seulement chez lui, il peut avoir une telle sagesse alors qu'il a grandi avec nous? Il y a un peu de jalousie, un peu d'orgueil, mais tout ça fait que finalement, au lieu que Jésus t'aide, te sauve, tu es bloqué parce que tu t'es intéressé à son humanité au lieu de t'intéresser à ses paroles. Deuxièmement, dans Matthieu 11, qu'on vient de lire, même Jean le Baptiste, qui a annoncé la venue de Jésus, était distrait par son humanité. C'est pourquoi il envoie les gens bien poser la question à Jésus, mais vraiment, est-ce que c'est toi? Pourquoi? Ce n'est pas facile de croire qu'un piéton, ce n'est pas facile de croire que quelqu'un qui marche avec 12 disciples à pied soit le Messie d'Israël. Il ne rassemble pas Israël comme David avait rassemblé comme une armée. Non, il vient, il prêche, il guérit. Il fait des choses simples. Il dit, je suis doux et humble. Comment cet homme-là peut-il être vraiment celui que moi, Jean-Baptiste, j'ai annoncé à toute l'humanité, à Israël? Et Jésus dit aux gens, allez dire à Jean-Baptiste que c'est bien moi. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Vous savez, dans la tradition juive, il y avait certains miracles que seul le Messie pourrait faire quand il serait venu. Entre autres, faire voir un aveugle de naissance. C'est pourquoi Jésus lui dit, les lépreux sont guéris. Et c'était aussi la guérison par rapport à la lèpre. Dans la tradition juive, c'est le Messie seulement qui pouvait, à sa venue, guérir de la lèpre. Donc il dit à Jean-Baptiste, dites-lui, les lépreux sont guéris. Les aveugles voient, parce qu'il y a des aveugles de naissance qui ont vu. C'est bien moi. C'est pour nous montrer comment même l'homme le plus spirituel, quelqu'un comme Jean-Baptiste, que Jésus après, en sens, vous voyez, dans la suite, Jésus dit, mais Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les humains. C'est le plus grand. Ce n'est pas un simple prophète. C'est la personne qui naît d'une femme et la plus grande sur la terre. Parce que personne ne baptisera Jésus encore. Personne n'est venu avant Jésus pour ouvrir la porte à Jésus. Seul Jean-Baptiste l'a fait et c'est fini une fois pour toutes. Mais pourtant, malgré le fait qu'il était si spirituel, il a été confronté au risque que Jésus devienne une occasion de chute pour lui. Et Jésus le dit, il dit, heureux, au verset 6, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus est conscient que sa nature humaine va être une occasion de chute pour beaucoup de gens. Il est conscient que sa douceur, sa simplicité va être un blocage pour beaucoup. Il est conscient que son côté pauvre d'apparence matériellement va être un blocage pour beaucoup. Mais il a dit, mais si c'est un blocage pour toi, donc ça veut dire que ça révèle que tu n'es pas dans la nature de Dieu et que tu dois changer. Mais Si tu en restes là, que ça reste, je deviens un blocage pour toi, malheureusement. C'est fini. Je suis une occasion de chute. Je ne peux plus te sauver. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour être une occasion de chute. Mais il va l'être pour ceux qui refusent la simplicité, qui refusent de s'humilier, qui refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il va l'être. Pour beaucoup, notre prédication, c'est que Jésus ne soit pas ton occasion de chute. Nous allons lire encore quelques passages. Nous lisons dans Luc, au chapitre 2. Luc 2. À partir du verset 34. On peut même commencer à partir du verset 21. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations » et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Voilà ce qui est prophétisé à Jésus. Il est là pour la chute. Il n'est pas venu pour faire chuter les gens, mais il va occasionner la chute et le relèvement. Il y a des gens qui vont se dire, ça c'est la pierre de Dieu, la pierre angulaire, je vais me reposer dessus, ils sont relevés. Il y en a qui vont dire, non, qui est-il pour qu'on le suive? Il est comme nous tous. Et Siméon prophétise cela. Siméon lui-même a échappé. Comment tu peux prendre un bébé et dire que c'est le Messie d'Israël? Ça ne peut être que toi-même, parce que toi-même tu es humble, tu as écouté le Saint-Esprit et tu lui as fait confiance. Et Siméon a évité que Jésus soit une occasion de chute pour lui-même. Ce n'est pas facile à un homme de cet âge-là de voir un bébé et de dire que c'est lui le Messie d'Israël. Il n'est pas né d'une famille connue de l'époque, une famille religieuse connue, non. D'une famille anonyme. Et il prend le bébé, il dit, c'est lui le Messie. Et Siméon a échappé. Il a écouté le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est clair, parce que notre passage principal, c'est Matthieu 11. Jésus est clair. Il dit que si quelqu'un, il est venu tout simplement, et dans cette simplicité-là, il sera un blocage pour d'autres, pour beaucoup de personnes. Il dit, malheur à qui je serai une occasion de chute. Il le dit clairement, il sera une occasion de chute. Et nous voyons comment il a fait des miracles. Et les gens ont dit, ben tiens, nous le connaissons, ainsi de suite. Le but de Jésus, c'est quoi dans Matthieu 11? Nous lisons Matthieu 11, verset 21. Verset 20. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. C'est pourquoi il fait des reproches. Le but de Jésus, c'est quoi? Quand il fait les miracles, quand il manifeste une grande sagesse, quand il parle, le but de Jésus, c'est que l'homme soit réconcilié avec Dieu. C'était ça l'objectif. Qu'en entendant ses paroles, qu'en écoutant ses paroles, qu'en voyant les miracles, qu'en observant le côté glorieux et parfait de Jésus, tu en viennes à dire, je suis pécheur, Jésus sauve-moi, libère-moi. Et qui a fait ça? Pierre a fait ça. Quand, dans la barque, Jésus lui dit, lance le filet. Alors que Pierre dit, mais toute la nuit j'ai lancé, il n'y a rien eu. Jésus lui dit, lance, c'est mon ordre. Pierre jette le filet. Et quand il jette le filet, c'est le filet était prêt à craquer, à se déchirer à cause de la grande quantité de poissons. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Le miracle a servi à quoi? À mener Pierre à la repentance. C'est ça l'objectif de Dieu. Que l'homme se repente et vienne dans une vraie relation avec lui. Que l'homme n'appelle plus seulement Dieu créateur, mais papa. Bien-aimé, quelle différence quand on peut dire à Dieu, tu es mon père. Ça fait toute la différence. Un père s'occupe de ses enfants. Automatiquement, l'inquiétude s'en va. On peut marcher tranquillement sans la culpabilité qu'entraîne une vie loin de Dieu. On sait que notre avenir, comme on dit en français, nos lendemains sont assurés avec lui, puisqu'il connaît l'avenir. On est en paix. Voilà l'objectif de Jésus, à travers sa parole, à travers ses prédications, à travers sa vie, à travers ses miracles, c'est nous amener à nous repentir, à dire, oh, je suis un homme pécheur. Pierre l'a avoué. Mais nous allons voir le même Pierre. Lorsque Jésus a dit que je vais être crucifié à la croix, il a dit, oh non, ce n'est pas possible. Nous allons parler de toutes ces formes de chute. Mais avant de parler des trois formes de personnes, des trois catégories de personnes pour qui Jésus est une occasion de chute parfois, nous allons parler du pourquoi. Pourquoi Jésus est une occasion de chute? Nous avons cité déjà une des raisons en parlant. C'est l'humanité. Jésus, s'il était venu comme un ange de 4 mètres, de 5 mètres, les gens allaient dire, voilà, ça c'est vraiment Dieu qui parle. Voilà. Si on ne l'écoute pas, il risque de te frapper. Il faut l'écouter. Jésus est venu comme un homme. Comme un homme. Il est né dans une étable. Dans une famille anonyme. Dans une ville qui n'était pas considérée par les Juifs comme une ville spirituelle, qui était en Galilée. Dans une province qui n'était pas considérée par les Juifs comme une province renfermant les vrais Juifs. Il est né dans ces conditions-là. Son humanité dérange. On se dit, mais comment Dieu Tout-Puissant peut être dans cet homme? Il y a un problème. L'humanité de Jésus dérange. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 11? Moi, je mange. On dit, oh, je suis un buveur et un gourmand. Mais Jean-Baptiste, pendant qu'il faisait que des jeûnes et des prières, vous disiez que ce n'est pas normal qu'un homme jeûne et prie comme ça, il a un démon. Mais maintenant, moi, je mange. Ah, mais non, il est trop humain. Pourquoi il mange? Bon, Jean-Baptiste, quand il ne mangeait pas, ah non, il est trop spirituel. Il ne mange pas, il a un démon. Et donc, les hommes sont perturbés, dérangés par l'humanité de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire chez Zachée? Un pécheur. Mais Jésus dit, mais moi je suis venu sauver les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les justes. Si tu es juste, ton cas est déjà réglé. Moi je suis venu pour les mauvais, pour les pécheurs. Et cet amour-là pour l'humanité, son humanité dérange. Comment le Fils de Dieu peut être fatigué? Oui, il peut se fatiguer parce qu'il avait revêtu la nature humaine à 100%. Et tout ça, quand les gens voient, disent, oh, mais... Et l'humanité de Jésus dérangeait beaucoup de gens. Son origine familiale, ça a dérangé beaucoup. Siméon dit, il va être l'occasion de chute de beaucoup. Il va causer la chute de beaucoup. C'est ainsi que beaucoup ont chuté. Chuter, ça veut dire quoi? Tu as loupé. Tu as raté l'objectif de Dieu pour toi. Et beaucoup de gens ont vu l'objectif de Dieu pour eux raté. Même si aux yeux des humains, ils étaient forts. Mais ils ont loupé ce que Dieu avait réservé pour eux. Regardez, écoutez ce que Jésus dit encore dans Matthieu 11. Il dit, Père, je te remercie parce que ces choses-là, tu les as cachées aux grands, mais tu les révèles aux petits. Des gens qui sont humbles, qui veulent bien prêter attention à qui est Jésus. Deuxième raison, c'est la vérité. La vérité que Jésus prêche dérangeait l'homme. L'homme était habitué au rite religieux. Se laver les mains avant de faire ceci, s'habiller de telle manière, le jour de grandes fêtes juives, il fallait faire telle chose, le jour du sabbat, je ne touche plus à rien. C'était la religion, ce n'était pas le changement de cœur, ce n'était pas le changement de vie. Jésus dit non, le problème, c'est ton cœur qui doit changer. Tu dois arrêter avec la convoitise, avec les mauvaises pensées, avec la colère, avec le mensonge. C'est ton cœur qui doit changer. L'homme s'est senti accusé, alors qu'autrefois, il était juste encadré par la religion. Mais là, Jésus vient, il prêche toute la vérité, il vit lui-même toute la vérité. Automatiquement, l'homme se sent comment? Il se sent accusé. Réaction d'opposition. La vérité, au lieu d'amener l'homme à se repentir, pour entrer dans une vraie relation avec Dieu, à dire comme Pierre, Seigneur, je suis un homme pécheur, à dire comme ce péager-là, vous savez l'histoire du péager qui était à côté d'un pharisien, le pharisien disait, moi, je suis un grand homme religieux, je jeûne 2 fois par semaine, je prie régulièrement, je donne ma dîme. Et le péager disait, le collecteur d'impôts disait, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus dit à tout le monde, c'est le péager qui a quitté de ce lieu justifié. L'autre est resté avec ses péchés. Le pharisien est resté avec ses péchés. Et Jésus, Dieu a été une occasion de chute pour ce pharisien-là. C'est ça la réalité, bien-aimé. Dieu peut devenir une occasion de chute pour toi. La vérité est là pour nous amener à nous repentir et entrer dans une vraie relation avec le Seigneur. Troisième point, le fonctionnement de Jésus aussi gêne les humains. Les humains sont habitués à un fonctionnement académique, scolaire, comme le fonctionnement des bouddhistes, le fonctionnement dans tous les coins où il y a des maîtres. Vous savez, les juifs avaient des maîtres, les rabbins. Donc, ils avaient des écoles et il y avait des niveaux dans ces écoles-là. L'homme est habitué à ça. Moi, je suis en 3e, moi, je suis en 5e. Moi, j'ai ma maîtrise, j'ai mon doctorat. L'homme est habitué à tout ça. Mais Jésus-Christ, lui, vient avec un fonctionnement inverse. Devant un homme rejeté, devant un homme petit, Jésus dit, tu es grand. Et devant un homme qui est grand, Jésus dit, tu es petit. Alors, ça déstabilise. Mais non, mais moi j'ai mon doctorat. Vous savez, Nicodème vient voir Jésus pour lui dire, Seigneur, bon, je réalise que tu es très fort, tu es quand même de Dieu. Alors, il y a des questions qui me dérangent depuis longtemps. Comment aller au ciel? Comment être sûr de ça? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une assurance de cela. Comment? Mais avant même de poser sa question, quand il fait le commentaire, l'éloge de Jésus, tu es un grand docteur, on sait que tu viens du ciel parce que tu ne peux pas faire, un homme qui ne vient pas du ciel ne peut pas faire les miracles que tu fais. Jésus lui dit, Nicodème, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Nicodème dit, mais comment ça? Je ne peux pas rentrer encore dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, est-ce que vous pensez que Nicodème ignorait que ce n'est pas de cela que Jésus parlait? Est-ce que Nicodème était vraiment dans la totale vérité quand il disait « Je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère » Il savait bien que ce n'est pas de cela que Jésus parlait. Il savait bien que Jésus lui demandait de tout recommencer à zéro par rapport à Dieu. Et ça, pour un docteur connu dans tout Israël, parce que Jésus l'a appelé le docteur d'Israël. Il n'a pas dit un docteur d'Israël, le. Donc il devait faire partie des grands docteurs de l'époque, consultés par tout le monde. Tu dis à quelqu'un comme ça, recommence à zéro. Mais le même Jésus, il entre chez Zachée, un homme reconnu comme un pécheur par tout le monde. Il dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Oh, ça ne peut pas arranger les humains qui sont habitués à la hiérarchie, qui sont habitués à être des grands, appelés des bienfaiteurs, appelés des puissants, appelés des grands diplômés. Ils veulent être reconnus dans leur excellence, dans leur talent naturel. Jésus dit, le talent naturel, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est un cœur qui se répand. Zachée s'est repenti, le salut est entré dans sa maison. Nicodème, tu dois faire la même chose et recommencer à zéro. C'est ça la réalité. Le fonctionnement de Jésus gêne. Jésus nous amène la grâce. L'homme n'est pas habitué à la grâce. L'homme est habitué à la méritocratie. Il faut mériter. Il faut bosser. Et c'est là que tu as des choses. Jésus dit, on ne mérite pas le salut, c'est un cadeau de Dieu. Ce fonctionnement-là, ça gêne. Les gens qui tirent leur argent de la faiblesse d'esprit de beaucoup de personnes. Quand tu sais qu'aujourd'hui le salut peut être donné le même jour que tu te convertis, toi qui avais l'habitude de faire aux gens des écoles payantes pour qu'ils aient leur salut, mais ça t'énerve. Tu dis, mais comment moi je vais gagner mon argent maintenant? Toi qui étais habitué à vendre les moutons pour que les gens fassent des sacrifices au temple, fassent des choses, on vient te dire que non, mais l'agneau de Dieu est venu. C'est le dernier sacrifice. Tu dis, mais comment je vais continuer à gagner mon salaire? Le fonctionnement de Jésus gêne. C'est par grâce. Ce n'est pas par les efforts. Jésus vient parler de sa mort, de sa résurrection, et exhorte tout le monde à la faiblesse et à la mort. Il dit, quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même. Alors que dans les autres systèmes, au contraire, on te dit, fais confiance en toi. Il y a un puissant en toi. Il y a un homme fort en toi. Apprends à être fort. Bats-toi. Jésus dit, meurs. Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te tape sur la joue gauche, passe-lui la joue droite. Quand tu as prêté à quelqu'un, ne redemande pas. Alors, tout ça, bien-aimé, ça ne peut pas arranger les humains. Jésus devient une occasion de chute. Mais pour les gens qui sont humbles, ils regardent bien et disent, mais tiens, mais ce qu'il fait là, c'est clair, il est le Fils de Dieu, il est envoyé du ciel. Mais ce qu'il dit, ça me gêne. Son système me gêne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais crier comme Pierre pendant qu'il s'est noyé. Seigneur, sauve-moi de ma nature qui est mauvaise. Sauve-moi de l'ancien système. Je veux accepter la grâce, la mort, l'humilité, la petitesse, afin d'arriver à la résurrection et à la gloire. C'est ça, bien-aimé. Des gens comme Paul, un grand érudit de l'époque, quand Jésus-Christ se révèle à lui, il tombe par terre. Et il devient quoi? Aveugle. Il ne voit plus. C'était pour lui apprendre que pour entrer chez Dieu, il faut d'abord être petit. Et il se fait contenir par la main 3 jours d'aveuglement. Et le 3e jour, un simple disciple de Jésus, qui peut-être à l'époque où Paul était le grand rabbin, un des grands rabbins d'Israël, cet Ananias-là n'était même pas connu. Ben, il vient, il dit, mon frère Paul, Jésus m'a demandé de prier pour toi afin que tu puisses voir à nouveau. Il prie pour l'apôtre, pour Paul. Paul voit. Je crois que dès cet instant-là, Paul a compris ce qu'est la vie chrétienne. C'est être petit. C'est un homme comme Ananias. Un homme comme Ananias ne pouvait pas se tenir à 10 mètres de Paul, tellement Paul était élevé dans la société juive. Mais c'est lui qui vient faire voir Paul. Ce système de fonctionnement, ça gêne beaucoup de gens. Les gens veulent être les premiers, veulent être les grands. Et Jésus dit, il faut être petit d'abord. Ce sont les petits qui sont les grands dans le royaume des cieux. Jésus dit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Ça gêne parce que la foi, c'est affirmer notre dépendance à Dieu. Alors que les œuvres, c'est nous-mêmes qui construisons notre salut. Et on perd contrôle. Et ça gêne. Jésus gêne pourquoi ? À cause de son éloignement vis-à-vis du matériel. Jésus est éloigné du matériel. Vous vous imaginez, il met qui trésorier ? Quelqu'un dont il sait qu'il est voleur. Il sait que Judas vole l'argent, mais il le laisse trésorier de leur groupe. Parce que sa confiance est placée en son Père au ciel. Donc Jésus-Christ est éloigné du matériel, mais il vit dans une communion avec le ciel. Alors que nous, les hommes de la terre, nous voulons une assurance sur la terre. On veut être proche du matériel, gérer le matériel, alors que Jésus dit, le matériel se gérera tout seul. Moi, je dépends d'en haut. Quand il envoie ses disciples, il dit, ne partez pas avec de l'argent. Le ciel s'occupera de vous. Bien-aimés, cet éloignement-là du matériel, cette espérance céleste que Jésus communique, ça gêne beaucoup de gens. Il y a même dernièrement un chanteur reconnu dans un pays. Quand on lui dit, mais pourquoi vous faites payer les concerts? Il dit, mais comment on va louer les salles? Le journaliste lui dit, mais Dieu, votre Dieu pourvoira, non? C'est ce que vous prêchez, non? Et il répond au journaliste, mais vous croyez que l'argent va tomber du ciel comme la manne? Bien-aimé. Donc, cet homme-là avoue qu'il ne croit plus en la manne. Alors que Jésus a dit quoi? Les Moïse, c'est des petits. Les Salomon, c'est des petits. Moi, Jésus, je suis le plus grand. Il a dit, la reine de Séba est partie voir Salomon. Les gens ont écouté Moïse. Mais ici, il y a plus grand que Salomon. Ici, il y a plus grand que Moïse. Si Moïse a fait descendre la manne, Jésus-Christ peut faire mieux. Il a dit à ses disciples, allez poche vide. Et quand ils sont revenus, il leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Oh non. Le monsieur lui-même, il dit clairement, est-ce que vous croyez que l'argent va venir du ciel comme la manne? Mais oui, bien sûr, ce sont les promesses du Seigneur. Et en ce moment, Jésus est devenu quoi? Une occasion de chute pour ce serviteur de Dieu-là. Ne laissons pas Jésus-Christ devenir une occasion de chute pour nous. Une occasion d'échec pour nous. Malheur à qui Jésus va devenir une occasion de chute. Il a dit par rapport à Jean-Baptiste, bien-aimé, comprenez que Dieu ne fait pas de favoritisme, hein? Malgré le fait qu'il dit que Jean-Baptiste, c'est le plus grand, il dit que, attention, je peux être une occasion de chute pour tout le monde. Même pour Jean-Baptiste, que je considère le plus grand. Et donc, il peut être une occasion de chute pour toi et pour moi. Peu importe notre passé. Même si on a fait 40 ans de fidélité avec Jésus, un jour, il peut devenir une occasion de chute pour toi. Même si le jour où tu t'étais converti, tu avais pleuré à chaudes larmes. C'est un chemin. Suivre Jésus, c'est un chemin. Nous avons besoin chaque jour de nous humilier devant lui. On n'a pas. Les choses ne finissent pas à une étape, à un moment donné. Non, c'est jusqu'à la mort. Nous avons besoin chaque jour de faire attention que Jésus ne devienne pas une occasion de chute pour nous à cause de son système, à cause de sa façon de penser. Et là, l'éloignement du matériel, ça ne veut pas dire que Jésus dit que nous devons être pauvres. Il dit tout simplement que vous êtes déjà riches par mon Père du ciel, donc ne vous inquiétez pas. Comme les païens s'inquiètent alors que vous avez un papa. Au contraire, il nous rapproche d'une vraie communion avec son Père parce que c'est ça son objectif. L'objectif de Jésus, ce n'est pas faire des grands pasteurs, faire des grands hommes. L'objectif de Jésus, c'est faire que l'homme qui est faible ait un grand Dieu en lui. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ. Et si on ne comprend pas ça, c'est grave. Il devient une occasion de chute. Si nous, on veut être un grand en maîtrisant, en ayant des grands comptes bancaires, on se trompe, il dit, mais non, ne vous intéressez pas à ça. Vous, soyez grand par le Dieu Tout-Puissant qui sera en vous et par la foi que vous mettrez en lui. Maintenant, si lui, il vous donne de grands comptes bancaires, pas de problème. Mais votre foi repose sur lui et non sur ce que vous avez. L'éloignement du matériel. Il y a déjà même dans le mariage, hommes et femmes, ils se battent pour l'argent. Bien-aimés. Il y a des parents qui parfois se battent avec leurs enfants pour l'argent. Même certains pour la nourriture. Il revient, ben, il veut qu'on lui laisse une grosse part et aux enfants des petites parts, bien-aimés. C'est une réalité. Vous savez, il y a beaucoup de systèmes, même, notamment dans certains pays africains. Oh, tel animal, la femme ne doit pas manger ça. Tel... Oh, tout ça, c'est pour que les hommes mangent seuls, bien-aimés. Et cet esprit-là peut venir même dans les choses de Dieu. Ce n'est pas bon. Tu arrives chez toi, tu trouves que ce qui t'était réservé, entre-temps, il y a eu des invités, entre-temps, les enfants ont eu faim, ils ont pris ça. Ne t'attache pas au matériel. Dieu est grand pour te donner ce que les hommes ne t'ont pas donné. Amen. C'est ça la logique de Jésus. C'est pourquoi il dit, quand tu as prêté, ne t'intéresse pas à recouvrer ça. Compte sur Dieu. C'est ça la réalité. Un autre point qui fait que Jésus est un problème, c'est lorsqu'on veut complètement le cerner. Les gens ont voulu comprendre Jésus totalement. Et ça a été un blocage, une cause de souffrance pour beaucoup. On ne peut pas comprendre totalement Dieu. On ne peut pas. On ne peut que se contenter de ce qu'il nous montre. Sachant que ce qu'il nous montre est suffisant pour qu'on ait la paix et la sécurité. Pourquoi chercher plus? Je n'ai jamais vu quelqu'un avant de monter dans un avion. Il a dit, je vais voir la cabine de pilotage avant de partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire ça. Avant de monter dans un avion, je vais aller voir d'abord les réacteurs, les moteurs, vérifier les pales du moteur, vérifier si une prise n'a pas été branchée. Personne ne dit ça. Quand tu vois seulement l'apparence de l'avion, et puis tu vois le bon Air France, tu dis, bon, il y a la sécurité là, on y va. Alors qu'il y a plein d'inconnus, mais tu y vas. Mais nous, on doit faire mieux pour Dieu. Il y a plein de choses que nous n'allons pas saisir. Mais ce que nous saisissons est suffisant pour nous procurer la paix, l'assurance, la foi et la force. Il y a des choses qu'on ne saisit pas. Pourquoi il a permis que je me casse la jambe? Tu ne vas pas saisir peut-être. Pourquoi il a permis cela? Mais ce que tu saisis est suffisant. Concentre-toi sur ce que tu saisis. Amen. Un autre problème, c'est recevoir les bénédictions de Dieu sans en user pour lui-même. Dieu te donne quelque chose. C'est ce qui s'est passé pour les miracles. Jésus fait des miracles, les gens ils prennent ça, ils consomment les miracles. Or, les miracles là devaient être pris pour après servir Dieu. Vous vous souvenez de la personne qui a été libérée des démons par Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est resté auprès de Jésus. Il a dit, je ne pars pas, je vais te servir maintenant. L'être que tu as libéré se met à ton service, automatiquement. Jésus dit, d'accord, va annoncer la parole dans les 10 villes, dans la Décapole. Et c'est ce qu'il est parti faire. Le monsieur qui a été guéri par Pierre et Jean, lorsqu'il s'est mis debout, on chante même un chant là-dessus, il a commencé à sauter et à louer Dieu. Mais il y a eu 10 lépreux que Jésus avait guéris.
Les neuf sont partis sans retour. Et il n'y a qu'un seul qui est revenu voir Jésus pour louer Dieu. Parce que l'objectif de Jésus, c'est quoi? C'est que tu loues Dieu. C'est que tu reconnaisses quoi? Que Dieu est ton Père. C'est ça l'objectif. Si ce n'est pas atteint, ça ne plaît pas à Jésus. D'ailleurs, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit au lépreux qui est revenu vers lui? Il a dit, voilà maintenant, ta foi t'a sauvé. Donc les autres qui étaient guéris n'étaient pas sauvés. Les neuf autres, ils étaient guéris physiquement, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais c'est le seul qui est revenu qui était sauvé. Donc la guérison l'a fait entrer dans la communion avec Dieu, dans le salut, dans la relation avec le Père Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cela? Rien du tout. La guérison physique n'est rien sans que tu sois en relation avec Dieu. Jésus a dit, vaut mieux aller au paradis estropié qu'aller en enfer en bonne santé. C'est ça la réalité. Les bénédictions que Jésus apporte peuvent devenir une occasion de chute pour la personne qui les reçoit. S'il les prend pour rester dans l'égoïsme avec ses bénédictions. Mais s'il les prend et les met au service de Dieu, là, ça ne sera pas une occasion de chute pour lui. Quand les pierres ont reçu la bénédiction, quand les poissons ont été multipliés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, pas quand il a fait une grosse pêche avec ses amis. Il est écrit dans Luc 5, ils abandonnèrent tout et suivirent Jésus. Donc, au lieu de prendre les poissons et dire, maintenant nous sommes devenus riches, ils ont dit, là, il vient de nous faire la démonstration qu'il vient du ciel, qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à perdre avec les poissons? On va aller plutôt avec lui. Parce que c'est lui qui a produit ces poissons-là. Pourquoi s'attacher aux poissons? Il faut s'attacher à la source. Même les gens du monde le disent, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt qu'à lui donner un poisson. Mais nous, même, c'est une sagesse simple. Mais les gens vont prendre la bénédiction du Seigneur et s'accrocher à cette bénédiction. Ils oublient que c'est la source qui est la chose sur laquelle nous devons nous accrocher. Il y a plein de choses à dire sur le fait que Jésus soit un obstacle. On n'a pas beaucoup de temps. Et nous allons parler de trois formes de personnes pour qui Jésus-Christ peut être une occasion de chute. Nous commençons par les vrais chrétiens. Jésus-Christ peut être une occasion de chute, même pour un chrétien. Mais ce n'est pas une chute qui va l'amener à la mort, à la perdition éternelle. C'est une chute qui va le briser, qui va l'humilier. Mais qu'il aurait pu éviter, parce que bien aimé, l'humiliation par notre propre faute, ce n'est pas agréable non plus. Vaut mieux encore qu'on soit humilié parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mais être humilié parce que tu as volé, ce n'est pas non plus agréable. Même si après tu vas te repentir, mais il y a quand même une réputation de voleur qui va circuler. Donc, quand je dis que le Seigneur peut être une occasion de chute pour nous, c'est dans le sens où c'est nous qui n'avons pas saisi le Seigneur et il devient une occasion de chute. Mais saisissons-le, bien-aimés. Prenons-le totalement. Et je commence par Pierre. C'est le bon exemple. Voyez Pierre. Pierre, c'est l'exemple du chrétien. Il a vraiment cru au Seigneur. Dès le premier jour, il a dit, Seigneur, je suis un homme pécheur. Je reconnais ma bêtise. Je suis mauvais. Sauve-moi. Et il a suivi le Seigneur immédiatement. Il a marché avec le Seigneur. Mais Pierre n'a pas voulu prendre le Seigneur à 100%. Il a reconnu que Jésus était fils de Dieu. Il a reconnu que c'était lui le Seigneur. Il veut bien le suivre. Mais il ne veut pas le suivre dans tout. Lorsque Jésus s'est fait, et on a voulu l'arrêter, Pierre a dit, on ne t'arrête pas, allez, je coupe l'oreille. J'attaque les gens qui viennent t'arrêter. Mais Jésus dit, mais non, ce n'est pas ça. J'étais appris des années durant, des semaines durant, qu'il ne fallait pas répondre par la violence lorsque tu étais violenté. Donc Pierre aimait bien son maître, aimait bien son Seigneur, mais il ne voulait pas prendre tout de lui. Il ne voulait pas. Et j'ai l'habitude de dire à beaucoup de gens, il y en a qui aiment bien un pasteur, parce qu'il dit de certaines choses, mais ils ne veulent pas prendre tout. Ils disent, ah mais bon, d'accord, on est d'accord avec ce qu'il dit, mais vivre comme lui, c'est la galère quand même. Hein. Et ils ne se le disent pas comme ça, mais en réalité, ils se disent dans le cœur. Et c'est pourquoi vous allez voir que c'est des gens qui ont une certaine connaissance, mais leur vie ne progresse pas. Parce qu'ils sont là seulement à prendre l'intellect, ce qui est de l'ordre de l'intelligence, mais ils ne prennent pas ce qui est de l'ordre du spirituel. Ils n'imitent pas la vie de la personne. Et là, finalement, Pierre avait cru, suivait le Seigneur, mais quand même, le Seigneur exagère. C'était ça la vie de Pierre. Quand le Seigneur dit, « Je vais être crucifié. » Oh, non, je vais te protéger, Seigneur. Mais comment toi, tu lui dis, Seigneur, tu vas le protéger encore? C'est contradictoire. Hein? Tu l'appelles ton maître et tu dis que ça n'arrivera pas. Donc, on est là, quoi. Mais c'est contradictoire. Comme certains disent que Dieu les a établis pour être des conseillers des pasteurs. Oh, mais comment tu dis que c'est des pasteurs? Toi, tu es pas pasteur, tu veux maintenant être... C'est contradictoire. Il y a un problème. Donc, si c'est le pasteur, c'est lui qui est appelé à te protéger. Il faut. Mais non, est-ce que ça veut dire que le pasteur ne peut pas recevoir des conseils? Bien sûr. Mais de là à s'installer dans, comme une institution, c'est pour donner des conseils pour... Non, bien-aimé, ce n'est pas biblique. Et là, Pierre se disait, oui, il est bien fils de Dieu, il est tout ça, mais quand même. Et il y a beaucoup de quand même chez les vrais chrétiens. Quand même, quand même. Maintenant, vous savez comment ça se manifeste? Pas directement sur Jésus, parce qu'ils savent que si tu manifestes ça directement sur Jésus, bon, personne n'a raison. Donc, ils manifestent ça auprès des gens qui prêchent. Ils vont dire ceci, mais quand même. Ils vont dire, comme si ils attribuent ça à la personne qui prêche alors qu'il a pris ça dans la parole. Mais quand même, mais quand même, mais quand même. Et ces mais quand même-là font que les gens sont freinés. Jésus devient une occasion de chute. Et on a vu ce qui est arrivé à Pierre. Une grosse humiliation. Il a renié le Seigneur. Il a renié, c'est de sa faute. Parce qu'il n'a pas voulu saisir ce que Jésus lui disait. Que sois calme. Laisse-moi être crucifié. Il n'a pas voulu de ça. Pas question que tu sois crucifié, pas question. Ben, ça l'a conduit à quoi? À une grosse bêtise. Renier carrément le Seigneur. Donc, il a fait le contraire de ce que lui, il pensait faire. Et beaucoup de gens, quand Jésus veut les aider, « Oh non, moi, je suis un bon chrétien. Je vais intercéder pendant 3 heures pour cette affaire. » Et Jésus veut lui expliquer ce qu'il faut changer. Je vais jeûner 4 jours. Il n'écoute même pas. Jésus veut lui expliquer... Je vais m'enfermer dans ma chambre. Je ferme ma clé. Personne n'entre. Intercession. Non, mais on veut t'expliquer. J'ai la solution. Je vais prier. Je vais aller voir un tel. Et beaucoup de gens, à cause de leur orgueil, n'écoutent plus le Seigneur. Mais pourtant, c'est des vrais chrétiens. Mais qui ne veulent pas tout prendre du Seigneur. Ils ont pris son côté sauveur, mais ils n'ont pas pris son côté Seigneur. Ils ne veulent pas tout prendre. Ils ont mis des limites au Seigneur. Nous ne devons pas mettre des limites au Seigneur. Voilà comment Pierre a fait une bêtise en reniant le Seigneur. Mais le Seigneur est bon, il veut nous restaurer. Et il nous restaure. Mais bien aimés, ne le sont pas tout le temps. Ne le sont pas le Seigneur devenir une occasion de chute pour nous tout le temps. Il faut arrêter avec ça. Il faut une fois pour toutes accepter ce qu'il dit à 100%, tout ce qui est écrit, même quand ça sort de la bouche de n'importe qui, du moment que c'est les paroles du Seigneur, nous devons accepter. Amen. Autre forme de gens, autre catégorie de gens pour qui Jésus est une occasion de chute, c'est le peuple. Le peuple est attiré par ce qui est visible, par ce qui frappe l'œil. Lorsque les choses se passent bien, allez, nous te suivons. Dès qu'on a des problèmes, nous faisons marche arrière. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand il faisait des miracles, il prêchait, on suivait. Il multipliait le pain, on suivait. Il ressuscitait un mort, on suivait. Dès qu'on l'a attrapé par les soldats, « Ah, c'est un traître, il veut vendre le pays, il n'est pas normal. » Et il y a des gens qui sont instables comme ça. Et moi, j'ai dit qu'ils ne sont pas encore chrétiens, c'est des sympathisants. Donc, ils sont là, ils aiment, comme on dit en français, ils aiment bien, mais en réalité, ce n'est pas aimer bien. Mais nous, on emploie le mot « aimer bien ». Mais, donc, je vais employer pour me faire comprendre. Ils aiment bien le Seigneur, mais ils ne veulent pas le suivre. Ils le suivent que quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, ils disent que c'est Satan qui a attaqué. Quand il y a des problèmes, ils disent que Satan, les esprits. Oh, mais vous, les esprits, mais Dieu est plus puissant que les esprits. Ah, les sorciers, j'ai des maux de tête. Oh, mais où est Dieu? Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Sorcier ou pas, Satan ou pas, Dieu est le plus fort. Maintenant, s'il permet que nous ayons des bobos, ben, qu'est-ce que nous devons avoir comme première réaction? Parler à Dieu et non pas se plaindre des assaillants présupposés, bien-aimé. Même s'il y a des assaillants, même s'il y a des gens qui nous attaquent, nous devons nous concentrer, nous, sur Dieu, parce que c'est Dieu qui est notre protection. Après, Dieu va nous inspirer la façon de répondre à ces assauts-là. Amen. Nous devons faire confiance en Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment chrétiens. Ils ne font pas confiance en Dieu. Ils suivent là où l'eau coule, comme on dit dans une certaine langue. Quand là, ça coule là-bas, eh bien, on suit. Quand ça bloque, bon. Eh bien, là-bas, on me promet imposition des mains, je vais parler en langue. Allez, on y va. Là-bas, on me promet imposition des mains, je vais recevoir un grand ministère. On y va. Donc, ils suivent là où ils entendent des nouvelles positives sur l'Église. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils ne suivent pas l'appel de Dieu. Le Seigneur a dit à Matthieu, qui était collecteur des impôts, « Lève-toi et suis-moi. » C'est tout. Il n'a pas dit « Tu seras riche, tu seras ceci. » « Lève-toi et suis-moi. » Un point, c'est tout. Là où Dieu t'appelle, c'est là où il faut partir. Il ne faut pas partir là où c'est facile pour toi. Là où Dieu t'appelle peut être difficile pour toi. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. « Quand tu seras grand, je t'amènerai où tu ne voudras pas. » Donc là où Dieu appelle, ça peut être difficile. Mais on se dit, c'est Dieu qui m'appelle, je suis. Amen. C'est ça la réalité. Il faut entrer dans la vraie foi. Il ne faut pas être instable. Suivre quand ça va. Suivre quand et régner le Seigneur. Et je dis bien, beaucoup de gens ne diront pas de leur bouche, je régne le Seigneur. Mais ils auront des comportements qui montrent en réalité qu'ils ont régné le Seigneur. Et ils vont attribuer ce comportement au fait qu'ils s'opposent à des hommes. Mais c'est où on suit la parole ou on ne suit pas la parole. Les hommes ne sont que des instruments. Ce qui intéressait Jésus, c'est qu'on croit qu'il parle de la part de Dieu. Du moment que la parole vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Moi, je suis la parole. Mais si l'homme ne me plaît pas, ça c'est l'homme. Mais la parole qui est dite, c'est de Dieu. Moi, je suis la parole. Amen. C'est ça la réalité. Les gens, le peuple était là, ils ont vu Jésus-Christ comment. Jésus-Christ était attaché, couronne d'épines. Et eux aussi, au lieu de dire, mais tiens, c'est pas normal. Nous, on l'a vu, tout le temps, il nous a prêché. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'il soit dans cette position-là? Non. Ah là, on croyait qu'il allait nous aider, nous libérer des Romains, il ne l'a pas fait. Crucifiez-le. Mais ça, c'est bien ça. C'est pas bon, c'est pas gentil. Beaucoup de gens, vous savez, moi, je suis pasteur, hein. J'entends beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire, « Pasteur, oh, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Quel témoignage !» 2 mois après, « Mais pasteur, on ne comprend pas. Pourtant, c'est écrit. Moi, je me pose des questions. Moi, mais quelle instabilité ! Quelle instabilité ! Ils sont les premiers à jeter des fleurs à Dieu. Et puis, 1 mois, 2 mois après, je ne comprends pas. Il renie le Seigneur. Il renie le Seigneur. Il faut choisir, bien-aimé, où Jésus est Dieu ou il n'est pas. Il faut choisir. Et donc, dans le malheur comme dans le bonheur, comme notre frère Job, nous disons, Dieu a donné, Dieu a récupéré, que son nom soit béni. Voilà. Puisqu'il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Et la catégorie la plus dangereuse et la catégorie des perdus, ah oui, là j'ai dit bien des perdus, c'est les pharisiens. Les pharisiens étaient jaloux. Ils savaient bien que Jésus était le Fils de Dieu. Mais s'ils acceptaient que Jésus était le Fils de Dieu, leur poste les quittait. Ils n'auraient plus les mêmes avantages. Mais c'est ce qu'eux aussi croyaient. Peut-être en se convertissant, Dieu allait les utiliser, ils allaient avoir même plus que ça. Mais eux, ils se disent, mais si nous acceptons que Jésus est le Fils de Dieu, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien. On n'a plus qu'à le suivre. Non, mais nous, on ne va pas suivre un petit qui vient de Nazareth. Il n'a que 30 ans. Voilà. Nous, on a fait des années d'école rabbinique. On vient de familles, de traditions sacerdotales. On ne va pas suivre un homme qui vient de Galilée. Vous savez, quand Nicodème a voulu défendre Jésus, on l'a mis en garde. Attention, Nicodème. Hein. Vérifie bien. Il n'y a pas de prophète qui vient de Galilée. Bien-aimé, Nicodème s'est calmé. Tu vas faire quoi devant une assemblée où tout le monde... Vous savez, comme on appelait ça, les gens ont de la viande en plus au cou, là. Ils ont... devant une telle assemblée... Tu dis, attends, Nicodème, hein, vérifie bien. Hein, de Galilée, il n'y a pas de prophète qui soit venu. Nicodème dit, ah, bon, je m'étais seulement. Voilà. C'est des jaloux. Il se dit, Jésus va prendre notre place. Jésus prend notre place. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Et nous allons rapidement, bien-aimés, pour dire que Jésus, aujourd'hui, n'est pas visible, mais il est visible par la parole. Donc, la parole peut devenir une occasion de chute pour toi. C'est-à-dire, au lieu de t'intéresser à la parole, tu commences à t'intéresser à l'homme qui prêche. Je dis bien, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire ce que je dis, il ne faut pas faire ce que je fais. Non, il faut qu'un homme soit modèle quand il prêche la parole. On est en train d'expliquer que quand tu entends la parole, tu te concentres sur la parole. Maintenant, s'il faut que quelqu'un soit ton pasteur, s'il faut que quelqu'un soit ton autorité, il faut que tu examines sa vie. Est-ce que sa vie est conforme à la parole? Tu ne peux pas laisser quelqu'un être ton autorité si sa vie n'est pas conforme à la parole. Tu as le droit d'examiner sa vie. Avant de laisser que quelqu'un soit ton pasteur, il faut examiner sa vie. Mais nous disons ceci. Vouloir se concentrer sur un homme, ce n'est pas biblique. Il faut se concentrer sur la parole. Maintenant, Dieu peut nous amener à faire des vérifications, mais se concentrer sur un homme, ce n'est pas biblique. Et Paul nous le dit bien dans 1 Thessaloniciens 2:13. Nous rendons grâce à Dieu continuellement de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Et donc nous sommes comme les gens qui reçoivent la parole. Pendant qu'ils reçoivent, ils reconnaissent que ça vient de Dieu. Mais après avoir reçu, en sortant, ils boudent cette parole-là qui vient de Dieu pour eux quand ils recevaient, sous prétexte qu'ils n'aiment pas l'homme, sous prétexte qu'ils ne comprennent pas l'homme. C'est des gens pour qui la parole devient une occasion de chute qui va les détruire, cette même parole. C'est ça la réalité. Si on reconnaît que ce qui est dit vient de la Bible, soumettons-nous à ce qui est dit. Maintenant, suivre un homme, on ne doit pas le suivre si on si déjà ne pas aimer quelqu'un, ce n'est pas bon. Mais on ne doit pas suivre un homme si on estime qu'il n'est pas vrai. On ne doit pas le laisser être notre conducteur spirituel. Mais cependant, la parole, quand elle sort et qu'on l'a entendue, et qu'on a reconnu que ce qui était dit était de la Bible, il faut s'y soumettre. Amen. C'est ça la vérité. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue un blocage pour eux. Elle est prêchée, mais ça ne les aide pas à entrer en communion avec Dieu. Ça, c'est la deuxième phase. Je parle d'abord des gens qui se bloquent par rapport à la parole parce qu'ils ont un blocage par rapport à un homme. Il y en a qui... pour qui la parole de Dieu est une occasion de chute parce que ça ne les aide pas à vivre une vraie communion avec le Seigneur. Ils se limitent à la surface. Ils disent, c'était bien la prédication. C'était puissant, mais ça ne change pas leur vie. Lorsque quelque chose est vrai et bien, ça doit nous amener à une meilleure communion avec le Seigneur. Donc, en quelque sorte, ça doit nous pousser à prendre des décisions. Je me repens. J'arrête la façon dont j'agissais autrefois. Je prie, Seigneur, ce que je viens d'entendre, je veux que cela soit pratiqué dans ma vie. Je prends des décisions. La vraie parole doit t'amener à prendre des décisions parce que la vraie parole nous purifiera toujours, nous corrigera, nous instruira, nous fera avancer. Et donc, on doit prendre des décisions. Sans les décisions, cette parole ne fera pas des effets. C'est clair. Et il y en a aussi qui pensent que la parole de Dieu est devenue une connaissance intellectuelle. Ils rajoutent connaissance sur connaissance, mais ils ne grandissent pas du tout. Parce qu'ils ne veulent pas pratiquer ce qui est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Tout le monde comprend. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tout le monde comprend. Vous n'allez pas dire qu'il faut 5 ans d'études pour comprendre ça. Mais ces deux commandements qui sont le centre de la parole sont négligés et les gens veulent rajouter connaissance sur connaissance, à gauche, à droite. Non. Commence par pratiquer ce qui est simple. Jésus n'est pas visible, mais il peut se révéler à travers des humains. Et beaucoup de les serviteurs de Dieu peuvent devenir un obstacle pour les gens. Une occasion de chute. Lorsque tu te concentres sur la voix d'un chanteur, au lieu de prendre ce qu'il chante, si c'est vraiment de Dieu que ça transforme ta vie, tu te concentres que sur sa voix. Il devient une occasion de chute pour toi. Tu te concentres sur l'éloquence d'un homme. Au lieu de prendre ce qu'il dit pour changer de vie, il devient une occasion de chute pour toi. Tu te concentres sur un homme pour vouloir le saisir totalement, le comprendre totalement. D'où viennent ses chaussettes? D'où vient son pull? D'où vient ceci, cela? Tu veux tout comprendre. Mais ce n'est pas lui ton salut. Ton salut, c'est Dieu. Ton salut, c'est Jésus. Ton salut, c'est la parole de Dieu. Tu veux pour écouter la parole, tout comprendre sur un homme, de A à Z. Et c'est ce qui a bloqué beaucoup de gens avec Jésus. Ils voulaient tout comprendre. Mais pourquoi il est parti manger ses achets? Pourquoi il est parti faire ceci? Pourquoi il a dit cela? Et Jésus a dit, il faut me manger. Mais pourquoi il a dit cela? Non, ils ne voulaient pas s'intéresser aux paroles du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ces gens-là ne comprennent pas parce que ça les intéresse. Parce que ce qui les intéresse, c'est moi, quoi. Ils veulent me regarder, me scruter, faire ceci, cela. Non, il faut s'intéresser à ce qui est dit pour que ça nous fasse entrer en communion dans la repentance avec Dieu. Ça doit te servir pour ta vie personnelle. Tu n'es pas un journaliste. Tu cherches Dieu ou pas? C'est Dieu qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher l'homme. Et beaucoup de serviteurs sont devenus un obstacle. Parce que les gens sont distraits par leur apparence. Au lieu de se concentrer sur la parole. Les gens sont distraits. Par tout ce qui peut se dire autour. Mais il faut se concentrer sur la parole, bien-aimé. Parce que c'est la parole qui va te changer. Et si quelqu'un tu estimes qui n'est pas un vrai serviteur de Dieu, ne l'écoute plus. Ne l'écoute plus. Mais si tu vas écouter quelqu'un en te disant que c'est un vrai, et maintenant il prêche, après tu commences à chercher des choses que tu ne comprends pas pour dire je ne veux plus, je ne pratique pas à cause de ceci, bien-aimé, c'est une contradiction totale. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est très important. Les serviteurs de Dieu sont des grands obstacles pour beaucoup de gens qui sont épatés par l'apparence au lieu de se concentrer sur la Bible. Est-ce que ce qu'il dit édifie ma foi? Il y en a qui se concentrent pour dire, « Oh, il a agité l'atmosphère, cet homme-là. » Mais sa prédication était percutante. Non, il faut dire, on a prêché quelque chose qui m'a humilié. J'ai été tapé par la prédication. Vraiment, je veux changer de vie. Ah! Mais là, vous êtes en train de discuter. Bon, là, la prédication était percutante. On n'a jamais entendu des choses comme ça. Zéro. Il faut dire, je me suis retrouvé vraiment dévoilé. Dieu m'a parlé. Ça, c'est la vraie attitude du chrétien. Parce que l'homme que tu vois en face n'est rien du tout. Dieu peut utiliser une pierre pour te parler. Intéresse-toi à ce que Dieu te dit. Au fait, les gens, ils sont devenus irresponsables. Ils veulent tout mettre sur les autres. Au lieu de dire, si je suis là, c'est parce que j'ai prié que Dieu me conduise. Il m'a conduit là. Donc, si on me parle, c'est Dieu qui parle du moment que ça sort de la Bible. Ce qui est dit, je vérifie, oui, c'est dit dans la Bible. Bon, donc, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, non, non. Ils veulent mettre la responsabilité sur les autres. Ils ne veulent pas être responsables de leur propre vie. On dira, c'est quelqu'un qui m'a manipulé pour que je vienne ici. C'est quelqu'un qui m'a manipulé pour que j'ouvre les oreilles. C'est quelqu'un qui... Donc, y a donc toi, tu n'es plus qu'un enfant. On te fait tout, quoi, finalement. Non, bien-aimé, sois responsable. Si en sortant de chez toi, tu as dit, Seigneur, guide-moi, sois responsable de la parole que tu entends. Sois responsable. Et nous concluons en disant cela. Sois responsable. Crois en la parole. Crois en la parole. Et que ça t'aide à vivre une vraie relation avec le Père. Que ça ne glisse pas. Et je parle aux serviteurs de Dieu que nous sommes tous en puissance. Nous sommes tous en puissance, ça veut dire potentiellement. Mais, et en pratique, eh bien, vivons la vie de Jésus-Christ comme des vases d'argile ayant un grand trésor. De Corinthiens 4, 7. Ne cherchons pas à être forts tout le temps, à se sentir forts. Paul dit que nous sommes comme des vases d'argile qui ont en eux un grand trésor. De Corinthiens 4, 7. Ce trésor-là, c'est Jésus lui-même. Donc, on est prêt à ce que le trésor se manifeste. On n'est pas d'accord quand le vase d'argile se manifeste. Il faut être prêt aussi à se réveiller mal en point, en se réveillant sans le goût de la prière. C'est le vase d'argile qui se manifeste. Mais le trésor n'a pas fui. Le trésor est toujours là. Il faut crier au trésor pour que le trésor aussi se manifeste. Il ne faut pas chercher à épater les gens. Il faut être un vase d'argile. C'est ce que nous sommes. Et laissons le trésor lui-même parler aux gens. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, à ne pas te laisser être un obstacle pour nous, Seigneur. À ne pas te laisser être une occasion de chute pour nous. Nous voulons nous humilier, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi et reconnaître nos erreurs. Reconnaître qu'on n'a pas, on ne s'est pas intéressé à ta parole. On s'est intéressé à toute l'ambiance qui entoure les événements spirituels. Au lieu de s'intéresser au centre des événements spirituels, qui est ta parole qui nous amène à une vraie communion avec toi. Le centre, c'est ça. C'est la relation avec le papa. La relation avec le père. Que notre relation avec toi soit transformée. Que notre relation avec toi soit changé complètement. C'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, viens nous aider. Prends notre âme, Seigneur, et que ta flamme brûle en nos cœurs, Papa. Nous sommes fatigués d'une vie d'instabilité. Nous sommes fatigués des doutes. Nous sommes fatigués de la religion. Nous sommes fatigués de l'irresponsabilité. Nous voulons être responsables et accepter que tu conduises nos vies. Nous ne voulons plus être comme le peuple juif qui a suivi Jésus lorsque tout marchait bien et lorsqu'il y a eu des problèmes qui s'éloignaient. Il faut une fois pour toutes, Seigneur, qu'on te suive comme les pierres t'ont suivi. Oh Seigneur, comme les Jean et les Jacques. Au nom de Jésus, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir négligé ta parole, de nous être attachés à l'ambiance, de nous être attachés aux humains, au lieu de nous attacher à ta parole. Oh, Éternel, nous voulons, Seigneur, ne pas être des spectateurs oublieux. Nous voulons être des vrais récepteurs de ta grâce, de ta parole. Et te servir de gloire en gloire. Nous refusons le tourisme. Venir dans l'église juste pour satisfaire un besoin religieux. Nous crions à toi, Seigneur. Change les choses. Que chacun d'entre nous entre dans son appel, ô Seigneur.